Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est La Curiosité, c'est le nouveau rendez-vous des après-midi de RTL. On est ensemble jusqu'à 15h avec la super Bonnec. Ça va Sidonie?
Merci le super Hugues, merci Thomas, bienvenue à tous. Si vous nous découvrez à cet horaire sur RTL, on va vous faire visiter notre cabinet de curiosité. Regardez, là il y a de l'aventure, bien sûr, vous me connaissez, là il y a un peu de saga musicale, on a de la science là-haut et des grands destins de notre histoire.
Et puis aussi les produits de notre quotidien, donc vous l'avez entendu, on va déguster des tomates.
Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.
On se régale de tomates depuis le mois de juin. Et oui, c'est la saison jusqu'à fin septembre. Notez bien dans votre calendrier, c'est mieux de manger de saison quand même. Hein. Alors on en connaît 2-3 variétés. Pourtant, on nous cache les 9997 autres. Mais pourquoi nous en privons-nous? Et ces tomates anciennes qui reviennent, le sont-elles vraiment? Beaucoup de révélations à venir sur RTL.
Allez tout de suite, ça vous dit de faire Nice-Paris en 40 minutes?
Amateurs de vitesse, accrochez vos ceintures. Bienvenue à bord de cette capsule supersonique.
RTL.
Ce TGV version science-fiction appelé Hyperloop sera peut-être un jour le moyen de transport du futur.
La curiosité est un vilain défaut.
Paris ne sera alors plus qu'à une heure de New York au lieu de 8 aujourd'hui en avion et seulement 2 petites heures pour aller à Pékin.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je ne sais pas si on écoutera du Jimi Hendrix à bord de l'Hyperloop. En tout cas, on vous révèle les secrets de ce nouveau mode de transport sur RTL avec Martial You. Bonjour Martial.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Très heureux de vous accueillir dans notre cabinet de curiosité. Vous êtes le chef du service éco de RTL. Alors, on a du mal à choisir ces mots sur cet Hyperloop. C'est quoi? Un train, une voiture, un avion?
Alors, pour essayer de comprendre, il faut remonter en fait à l'été 2013 quand Elon Musk, qui est donc derrière ce projet Hyperloop, a envoyé un PDF, donc un document classique comme on en reçoit des tonnes par mail, d'une cinquantaine de pages, où il décrivait son projet et il disait c'est le cinquième mode de transport. C'est-à-dire qu'on connaissait l'avion, la voiture, le train, le bateau. Et bien là, on aura un nouveau mode de transport, c'est-à-dire une espèce de train mais qui va se projeter dans un tube à des vitesses vertigineuses et qui permettra donc de faire des distances très longues en peu de temps.
Comment il se projette ce tube-là, cette capsule dans le tube avec des coussins d'air, par exemple.
C'est ça. C'est l'heure du comment ça marche.
Comment ça marche. C'est vrai que c'est. Alors déjà, il y a plusieurs projets parce que Elon Musk, il a demandé à plusieurs startups, plusieurs laboratoires de scientifiques de travailler sur son projet. Mais en gros, si on retient l'idée de base, vous allez avoir un tube en plexiglas totalement hermétique, où l'air ne rentre pas, bien entendu. Et puis ensuite, j'ai envie de vous dire, c'est une vieille invention, c'est ce qu'on appelle le pneumatique, quoi. Il y avait ça autrefois dans les administrations, où on voit ça encore dans les pharmacies aujourd'hui, c'est-à-dire vous tapez le nom d'un médicament et puis il arrive au comptoir à travers ce qu'on appelle un pneumatique. C'était pareil aussi pour les documents qu'on se transmettait entre services dans les administrations. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement de l'air que l'on propulse derrière une capsule, alors une capsule qui est dans un matériau hyper léger, bien entendu, et qui, sous forme de coussin d'air, va éviter tous les frottements. Et donc, qu'est-ce qui fait ralentir un objet? On l'a appris en physique, chimie, dans nos vieux cours.
C'était il y a longtemps.
C'était il y a bien longtemps. Eh bien, ce qui fait le frein, c'est justement la friction entre le produit et le sol, par exemple.
À quelle vitesse il pourrait aller, cette Hyperloop? Faites-nous un peu rêver sa place Nice, Brest ou Amsterdam. À quelle distance de Paris, par exemple?
Eh bien, de Paris, vous allez faire un Paris-Marseille ou un Paris-Nice en 40 minutes, à peu près. L'idée, c'est d'être à 30 minutes, 45 minutes des grandes villes. Par exemple, Amsterdam, c'est pareil, ce sera dans cet ordre d'idées-là.
Avec quelles conséquences, alors, démographiques pour notre pays? Ça va tout changer?
Alors ça, c'est intéressant, parce qu'au départ, on se dit, c'est formidable, vous allez pouvoir travailler dans votre Cambrousse, une région peu peuplée, dans le Cantal, tranquillement au milieu des montagnes ou au bord de la mer, et puis vous serez plus qu'à une demi-heure, évidemment, de votre siège social à Paris. Ça, c'est le premier raisonnement. La réalité, et ce qu'on constate d'ailleurs en Californie, où évidemment il est très très présent avec ce projet Elon Musk, eh bien c'est qu'en en vérité, on raccourcit les distances pour rapprocher les très grandes villes. Donc ça va pas profiter à la campagne, ça va profiter à un rapprochement d'énormes cités dont vous allez avoir, vous allez avoir la Californie à une demi-heure. Si on prend entre Los Angeles et puis San Francisco, vous serez à moins d'une heure de distance. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que vous allez avoir des mégalopoles qui concentreront
encore
les populations
grande.
Encore plus grandes et puis un désert au milieu.
Vous y êtes allé à San Francisco, oui. Vous avez rencontré certains des ingénieurs qui travaillent avec Elon Musk. On dressera le portrait de cet entrepreneur assez génial. Il bosse sur plein d'autres projets.
C'est ça qui est assez fou, c'est que c'est le mode start-up, ce qu'ils appellent des labs. Donc, vous bossez parfois même sans le savoir pour Elon Musk, c'est-à-dire que vous avez des scientifiques, alors vous avez évidemment la grande université de Stanford, en Californie, et là, vous avez des tonnes de cerveaux, des gens qui se rassemblent sur des projets, qui parfois vont être agrégés dans un projet Elon Musk, donc c'est le dieu là-bas, hein. Tout le monde vénère la moindre idée et la moindre parole d'Elon Musk, donc vous avez des gens qui travaillent pour lui, pour les technologies spatiales qui sont utilisées, y compris pour l'Hyperloop, et puis parfois qui s'échappent du lab pour créer leur propre start-up à partir de la technologie qu'ils ont développée pour Musk.
Et vous allez nous raconter notamment qu'ils travaillent sur des wagons qui s'emboîtent les uns avec les autres. Je n'ai pas très bien compris, vous allez nous dire ça, Martial Lio. Et puis on va aussi aller faire un petit tour à Toulouse parce que les start-up qui travaillent sur l'Hyperloop, elles sont intéressées par les talents toulousains, vous verrez. Restez avec nous sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
RTL.
RTL, c'est
des découvertes,
mais aussi des standards
et des nouveautés.
RTL.
On aime la musique sur RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Imaginez-vous à bord d'une capsule propulsée dans un tube à plus de 1200 km/h. Vous quittez Paris pour Nice et 40 minutes plus tard, à peine, vous êtes déjà arrivé. C'est ce que vous permettra de faire l'Hyperloop que Martial Liu nous fait découvrir. Alors, moi, je me projette déjà un peu parce que j'adore voyager un peu partout en France. Et je me dis, alors, je vais être toute seule dans cette petite capsule. J'aurai mon petit cocon à moi avec ma famille.
Non. Alors, il faut imaginer que ça reste un transport en commun. Donc, vous aurez sans doute une cinquantaine de places, hein, un petit wagon, comme une sorte de petites gélules, si on diminue la taille à l'échelle, vous aurez une gélule dans un tube immense. Alors pour l'instant, les projets, il y en a plusieurs. Il y en a sous terre, et puis ceux qui sont en train d'être testés dans le désert du Nevada notamment, sont des tubes en hauteur, comme un métro aérien, mais qui ferait des centaines de kilomètres. Et là, vous avez cette capsule d'une cinquantaine de places, totalement hermétique, totalement
fermée.
Pas de fenêtre. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils vont projeter sur les côtés des fausses fenêtres qui donneront l'illusion qu'on est dans un avion et qu'on n'est pas totalement enfermé. Parce que c'est vrai que là, vous vous retrouvez sinon dans une capsule et vous pouvez avoir quelques crises de claustrophobie.
C'est ce que j'allais dire, pour les claustrophobes, il y en a quand même. Hein.
Donc ceux-là, il faudra qu'ils continuent à prendre un train classique.
Qu'ils soient patients.
Mais il y a quand même un souci, parce que ça nous fait rêver, mais les infrastructures aujourd'hui, elles n'existent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se pluguer, si j'ose dire, se brancher sur, j'en sais rien, les rails de la SNCF ou
au-dessus, déjà. Bien sûr, alors au-dessus, ce sera compliqué aussi, c'est-à-dire que ça nécessitera des années et des années de travaux. Et dans des pays denses et très peuplés, comme la France, on a du mal à imaginer comment vous pouvez, quand on voit le temps qu'on a mis à construire la LGV entre Paris et Bordeaux, vous imaginez de créer de toutes pièces une espèce d'aqueduc géant qui ferait Paris-Bordeaux dans le ciel. C'est assez invraisemblable. En revanche, l'idée, elle tient la route, effectivement, sur les grands espaces un peu vierges qu'il y a en Californie ou dans les grandes villes américaines, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a très peu de TGV. Ça n'existe pas aux États-Unis, le TGV déjà à la base. Donc là, ils ont l'espace pour pouvoir relier les grandes villes.
Ça veut dire que, Martial Lio, que la SNCF n'est pas très inquiète par la concurrence du futur Hyperloop, ou alors elle a déjà commencé à réfléchir à son propre mode de transport 2.0?
Elle a mis des billes dans Hyperloop, dans une des trois grosses start-up qui travaillent sur Hyperloop. Elle a investi, alors on ne sait pas combien, elle a refusé de le dire pour l'instant. On sait juste que cette start-up a levé 80 millions de dollars et que la SNCF est un des 9 investisseurs qui a mis au pot sur ces 80 millions. Donc après, ouais, ça peut être 9 millions, par exemple.
Et il y a une de ces startups, alors je ne sais pas si c'est celle dans laquelle la SNCF a investi de l'argent, qui veut construire son centre d'essai ou l'un de ses centres d'essai à Toulouse.
Oui.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'à Toulouse, d'abord, vous avez le terrain, puisqu'elle serait basée sur une ancienne base militaire de Franck Casal. Cette startup s'appelle HTT, c'est une des trois et c'est une américaine. Et pourquoi ils se sont basés à Toulouse ? Tout simplement parce que là, vous avez tous les ingénieurs de l'aéronautique.
Oui, il y a des talents.
Donc, évidemment, parce qu'il faut se rendre compte qu'on parle d'un train, mais toute la technologie embarquée sur l'Hyperloop, c'est essentiellement de la technologie spatiale. Et c'est pour ça que là, il y a un intérêt à aller chercher. Ils recrutent d'ailleurs, je crois, si ce n'est pas déjà fait, une quarantaine d'ingénieurs.
Ah bah c'est bon,
petite
c'est bon.
Annonce.
C'est bon à savoir. Petite annonce sur RTL grâce à Martial You, si vous voulez bosser pour Elon Musk, vous pouvez appeler. Vous nous parliez tout à l'heure de ces ingénieurs. Alors là, on est dans la Silicon Valley, qui travaillent parfois sans le savoir pour Elon Musk. Juste un mot d'un de leurs projets, là, ces wagons qui pourraient s'emboîter les uns les autres. C'est quoi cette
histoire ? Alors ça, c'est un investisseur italien qui est allé travailler dans la Silicon Valley, notamment sur les projets d'Elon Musk, et qui a donc décidé, lui, de s'émanciper de cela et de proposer pour les transports urbains, cette fois, d'avoir des sortes de métros ou de tramways qui sont modulables. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les Parisiens le savent, vous faites des correspondances pour aller d'un point A à un point B, il faut changer de métro à telle station, etc. Et bien là, en réalité, son idée, c'est d'avoir des petits wagons qui s'accrochent les uns aux autres en fonction des stations. Et vous vous déplacez dans votre wagon, donc vous allez à Châtelet-Les-Halles, et là, vous changez sans vous en rendre compte, puisque vous avez juste à vous déplacer d'un mètre, et votre wagon part dans la bonne direction, dans celle où vous voulez aller à la fin, sans que vous ayez à descendre du quai, faire une correspondance et récupérer un autre wagon. Et ces wagons-là s'additionnent les uns aux autres. Il peut y en avoir 4, 5, 6.
Tout automatique.
Après, ça se sépare. Oui, tout est automatique.
Cet Hyperloop, il va à 1200 km/h. C'est la vitesse du son. Qu'est-ce qu'on va ressentir, nous, les passagers, comme sensation ?
Alors, c'est comme un avion, c'est-à-dire que l'intérieur est pressurisé, donc vous n'êtes pas sensible à cette vitesse. Mais juste quand même pour se donner un ordre d'idée, parce que tout le monde ne sait pas évidemment à combien vole un avion, mais un avion, il vole à peu près à 900 km/h. Donc là, on est plus rapide qu'un avion, et un TGV, sa vitesse de pointe, elle est à 574 km/h, c'est son record. Mais la plupart du temps, dans un train, on est plutôt autour de 300-350.
Alors, derrière ce projet, l'Hyperloop, il y a un homme, mais qui est vraiment Elon Musk. Cet entrepreneur qui veut révolutionner nos transports, on le dévoile dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Accélération maximale, 160 km/h en une seconde, trois fois plus vite qu'une voiture de Formule 1. Technique utilisée, la propulsion électromagnétique fournie par l'énergie solaire.
RTL.
Le train du futur n'est plus un fantasme. Son nom, l'Hyperloop. Il voyage à la vitesse du son, un Concorde sur Terre, mais propre.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Hyperloop, oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire un effort. En tout cas, tous les jours, de 14
c'est
à 15h sur RTL, on accueille les curieux. Voilà, c'est ça. Nous, on fait des annonces compréhensibles par tout le monde.
L'Hyperloop passera dans 2 minutes.
Ce train du futur, c'est Martial You qui nous le présente. Et surtout, son inventeur, en tout cas, celui qui en a eu l'idée, cet entrepreneur là, génial, qui s'appelle Elon Musk. Alors, déjà, on va poser un peu le bonhomme, le décor. Il pèse combien de millions de dollars aujourd'hui, Elon Musk.
C'est très compliqué. Il y a plein de chiffres qui circulent sur lui. On va dire que c'est autour de 275 millions de dollars. Certains lui prêtent même jusqu'à 21 milliards. Donc,
à quel âge ?
Ça fait une marge, entre les deux.
Il a quel âge ? 70 ans pour être aussi riche ou non ?
Il est né en 71, donc c'est un quadra, 45-46 ans. Et c'est un type, c'est vrai, assez extraordinaire, parce que c'est un hyperactif, c'est un précoce, c'est-à-dire que lorsqu'il est gamin, il lit 10 heures par jour, évidemment, il s'ennuie ferme à l'école. Et donc, à 12 ans, ça va faire rêver tous les enfants qui nous écoutent, tous ceux qui ont un petit côté geek, il crée un code pour un jeu vidéo. Le truc se vend, il le vend pour 500 euros, pardon, ou 500 dollars à un magazine scientifique, mais c'est le début, quoi. C'est-à-dire que, et à 17 ans, Il est né en Afrique, en Afrique du Sud, hein, ouais. À Pretoria. À 17 ans, il dit à ses parents, ciao, j'arrête l'école, je pars. Alors, il n'arrête pas véritablement l'école, mais il va faire des études au Canada, contre l'avis de ses parents. Ses parents veulent le garder, évidemment, vu son jeune âge. Ouais. Il part au Canada.
Il dit, l'Afrique du Sud, c'est trop petit pour moi, d'une certaine façon, à 17 ans. Quoi.
Et alors, donc, c'est, si on prend les étapes de sa vie, il naît en 71 à Pretoria. Il est Canadien de nationalité en 1988. Il est Américain en 2002, parce qu'après le Canada, c'est trop petit, il descend aux États-Unis. Ouais. Et il est millionnaire, voire milliardaire. En 1999.
Grâce à quoi Elon Musk est milliardaire? Pas encore l'Hyperloop ou l'Hyperloop?
Non, parce que là, pour l'instant, il perd de l'argent.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa besace?
Alors, des marques que vous connaissez, il y a PayPal, c'est-à-dire que c'est ça qui va véritablement le lancer. Hein. Il commence avec une idée avec son frère en 95, cette fois, c'est pour faire, c'est tout bête, et ça nous semble bête aujourd'hui, c'est que vous repérez votre pizzeria sur votre téléphone, puisqu'on vous indique le map, le plan, vous pouvez la trouver, l'adresse. Bon, ça va très bien.
Ça, c'était la première appli qu'ils ont proposée.
Voilà, première invention, il la vend en 99, il la vend très très bien, plus de 20 millions, il est riche, et là, il se lance dans un truc auquel personne ne croit, et c'est souvent ça la bonne idée, dans la banque. Il n'y connaît rien, évidemment, à la banque, et il va inventer donc PayPal, qui consiste à pouvoir payer d'un téléphone à l'autre, d'un particulier à un autre, directement, sans passer par une banque. Il se fait démonter, évidemment, par l'ensemble du secteur bancaire, il va finir par perdre sa place, mais malgré tout, comme il est actionnaire principal, quand il revend à eBay, autre marque qu'on connaît un tout petit peu, il le vend très très cher, et là encore, il amasse des millions qui vont lui permettre de se lancer dans son idée suivante, qui est un succès phénoménal en Californie. Vous en voyez partout, à chaque coin de rue, la Tesla.
Alors, c'est quoi la Tesla
électrique?
Moi, je suis monté dedans une fois.
Ben voilà. Mais c'est un truc.
C'est impressionnant.
C'est pareil. Et ce qui est amusant dans la logique d'Elon Musk, c'est qu'à chaque fois, j'ai envie de dire, il est un peu entre Louis Blériot, celui qui a traversé, l'aviateur qui a traversé la Manche pour la première fois, et Garry Kasparov. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous ne savez pas très bien. Il a des intuitions, il y a une forme de logique qu'on ne comprend qu'après. Et donc, lorsqu'il a cet argent pour créer la Tesla, la voiture électrique, eh bien, il va en inonder la Californie, et la Californie va autoriser la possibilité de rouler avec des voitures électriques, puis avec des voitures autonomes, parce qu'évidemment, l'étape d'après de la Tesla, c'est la voiture autonome, et ça permet de développer une technologie qui, ensuite, vous emmène en l'air, Hyperloop d'un côté, ou SpaceX, c'est-à-dire les lanceurs de fusées. SpaceX,
il veut aussi nous emmener dans l'espace. D'Ariane.
Mais oui, parce que le rêve ultime d'Elon Musk, je ne sais pas s'il y arrivera, c'est de coloniser Mars. Il s'est fixé une petite vingtaine d'années pour ça.
Il a pensé qu'au moyen de transport, ou il va nous faire des maisons aussi là-bas, parce que c'est bien beau d'y aller, mais s'il n'y a rien, on fait comment?
Vous ne croyez pas si bien dire. C'est-à-dire qu'il travaille avec des start-up. Moi, j'en ai rencontré en Californie, justement, qui sont des. C'est un système d'imprimante 3D, en réalité. C'est-à-dire que dans son idée, il va envoyer sur Mars, quelques années avant que lui-même n'y habite, des imprimantes 3D géantes, robots qui sont autonomes et qui vont fabriquer la base sur laquelle il s'installera ensuite grâce à ses imprimantes 3D.
Belles ambitions. Elon Musk, il y a même des choses à dire sur la Corée du Nord et la Troisième Guerre mondiale. On vous dévoile ses prédictions dans une minute sur RTL. RTL.
14h-15h.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
C'est la curiosité, le nouveau 14h-15h d'RTL. Alors si vous nous écoutiez le soir avec Sidonie, vous savez qu'on aime dans cette émission les destins hors normes, les destins extraordinaires, et on est servi avec cet Elon Musk. Martial Liu, chef du service éco d'RTL, nous dévoile ses projets et son histoire. Elon Musk, donc vous nous l'avez dit, génie précoce, d'abord sud-africain, puis canadien, puis américain, il lui faut toujours des pays plus grands, et puis fondateur de la Tesla, SpaceX, projet sur Mars, et donc cet Hyperloop, le train du futur. Elon Musk qui alors a voulu nous rassurer, on est en pleine inquiétude sur la Corée, oui vous avez raison, sur la Corée du Nord, en tout cas à court terme. Moi j'ai pas peur de Kim, j'ai pas peur de la Corée du Nord, mais j'ai peur de quoi alors? Qu'est-ce qu'il dit Elon
Lui,
Musk?
Il a peur de l'intelligence artificielle et des tueurs informatiques, quelque part des robots tueurs, on les appelle comme ça. Alors pour bien comprendre, d'abord il est pas tout seul à délirer dans son coin, hein. Il y a Bill Gates qui pense la même chose, et il y a également un des génies, un astrophysicien, Stephen Hawking, qui pense la même chose. C'est quoi ces robots tueurs? En fait, juste en deux mots, pour comprendre, il faut remonter à l'origine de la science-fiction et ce qu'on appelle la singularité. C'est une théorie des années 50. La singularité, c'est le moment où l'intelligence artificielle est devenue tellement puissante que les robots peuvent engendrer des robots et penser plus et plus vite que les humains. C'est ce qu'on retrouve dans tous les films de science-fiction qu'on a vus à Hollywood.
Ça veut dire que les Coréens sont en train de fabriquer ce type de robot?
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que pour Elon Musk, lui, son sentiment, c'est que le véritable danger, c'est le moment où les robots seront tellement puissants qu'ils auront la capacité de nous surpasser intellectuellement et de prendre le pouvoir sur les machines. On sait que notre monde est très informatisé et qu'à ce moment-là, une intelligence supérieure et artificielle sera en mesure de prendre le contrôle du monde et de créer des guerres avec des robots tueurs qui n'ont évidemment pas les mêmes sensibilités, les mêmes sentiments qu'un être humain.
C'est Terminator, ce que vous nous décrivez. Il travaille sur l'intelligence artificielle, Elon Musk, ça fait partie de ses business
comme tous ceux qui
sont dans la Silicon Valley.
Voilà, il faut se rendre compte, pour bien comprendre, moi, ce qu'on m'a expliqué en Californie, c'est que pour un SDF, à San Francisco, vous avez 2 millionnaires. Donc, c'est vous dire que là, il y a de la puissance en termes de capitaux pour pouvoir travailler sur notamment...
C'est bien une comparaison à l'américaine, ça.
Oui, c'est ça.
Chez nous, elle choque un peu.
C'est un peu choquant.
Pour boucler la boucle, Marcel Liu, ça veut dire que la Troisième Guerre mondiale sera une guerre de robots contre les humains.
Ou de robots contre des robots, mais au détriment des humains. Vous savez, un robot, s'il est PDG, à un moment donné, il n'aura pas trop de sentiments sur les emplois à supprimer si jamais c'est bon pour le business.
Moi, je ne partage pas l'antenne avec un robot. Gardez mon Hugues.
Finalement, ça ne nous rassure pas.
Bon, c'est 2040.
Vous avez raison, Martial. Merci beaucoup. Martial Liu, à très bientôt dans la curiosité. On sera très
bientôt.
Heureux de vous retrouver.
À bientôt.
Vous écoutez RTL.